Eh bien, les amis, je vous invite, comme nous avons fait depuis quelques semaines, à aller dans la lettre de Jacques. Nous avançons tout doucement. Nous sommes au chapitre 1 et nous avons vu certaines choses aujourd'hui, comme c'est indiqué. Je ne sais pas si vous le voyez, le titre, je ne sais pas si c'est là qu'il fallait le marquer. Nous allons au chapitre 1 et nous regardons les versets 9 à 12. J'ai dit on avance doucement, mais Jacques est tellement riche, n'est-ce pas? Jacques 1, verset 9, « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. » Verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et c'est la parole de Dieu, Jacques. Et ce matin, nous allons regarder donc ces quatre versets et nous allons regarder pauvreté, richesse et bonheur. Et bonheur. Donc, comme je l'ai dit, on continue notre cheminement dans la lettre de Jacques. Jacques, pour rappel, écrit à des chrétiens du premier siècle pour qui les difficultés de la vie sont devenues des montagnes. Et cela les plonge dans le découragement, dans la paralysie spirituelle. Face à cette situation, la démarche de Jacques est simple. Il met ses correspondants en souvenir de ce que Dieu a fait. Et il fait cela en commençant en les appelant frères. Vous êtes frères, non pas parce que vous êtes des copains, non pas parce que vous avez tous le même intérêt, mais parce que Dieu a fait quelque chose. Et il les met en souvenir, de nouveau, de ce que Dieu fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fait. Les diverses épreuves qu'ils subissent ne viennent pas au gré du hasard. Le hasard n'existe pas. Mais Dieu les utilise pour forger en eux un caractère spirituel ferme, que ce soit des hommes faits. Mais, afin que cela se passe, il faut poursuivre, si on peut dire, le traitement jusqu'au bout et ainsi bénéficier de son effet favorable. Comme on a dit l'autre semaine, si on commence un traitement et qu'on ne le finit pas, alors on va peut-être avoir une petite amélioration, mais on n'est pas guéri, tout simplement. Donc, il faut poursuivre le traitement jusqu'au bout. Et pour cela, le croyant n'est pas dépendant d'une sagesse humaine, mais avant tout, il est dépendant de la grâce de Dieu, comme nous avons vu, du Dieu donateur. Là encore, celui qui veut recevoir de la part de Dieu ne reste pas centré sur soi-même, sur ses sentiments. Non, il lui faut s'appuyer sur ce que Dieu donne. Il vient demander avec foi, c'est-à-dire en ayant les regards fixés sur Dieu lui-même. C'est Dieu qui est au centre et c'est vraiment tout ce que Jacques essaye de faire. En bon berger, au service du Seigneur de grâce, Jacques ne cesse de recentrer ses frères sur ce qui est le centre de tout, à savoir l'alliance de grâce, c'est-à-dire ce dessein éternel que Dieu a conçu pour se réconcilier avec un peuple au travers de la croix de Christ. Et bien sûr, en filigrane est ce grand modèle dont Paul parle en Philippiens chapitre 2. il veut que son peuple soit habité par les sentiments qui habitaient en Jésus-Christ, celui qui est Dieu, qui est au-dessus de tout, par nature. Il n'a pas besoin de se battre pour l'obtenir. Eh bien, il écarte toutes ces choses pour s'humilier, afin d'accomplir le dessein de son Père, afin de venir sauver un peuple, son peuple, le peuple qui lui a été donné par amour. Et ce faisant, ce Seigneur Jésus lui-même est élevé par son Père au-dessus de tout. Et c'est exactement ce que Dieu prépare pour son peuple. Et nous avons vu comment les exhortations de Jacques, données il y a si longtemps, nous interpellent aujourd'hui, au sein même de nos épreuves. Nous passons tous par des épreuves qui sont diverses. Vos épreuves ne sont pas les miennes ne sont pas les vôtres. Et au sein des épreuves, le danger est exactement le danger qui menaçait et qui avait déjà touché les correspondants de Jacques. C'est pour cela que sa lettre est tellement moderne, tellement actuelle. Comment est-ce que je vis mes épreuves? Est-ce que je suis une victime ou est-ce que je suis l'enfant de Dieu? Voilà les deux, le choix qu'il y a devant nous. Comment est-ce que je m'approche de Dieu? Est-ce que je m'approche de Dieu en ne le voyant pas? Beaucoup le font, et pourquoi pas moi? Allons lui demander la sagesse, et allons lui demander la sagesse avec foi. Tout au long de sa lettre, Jacques examine des cas pratiques. Il va enseigner les grandes vérités théologiques, on pourrait dire, bibliques, à travers des cas pratiques, des cas de la vie courante. Et c'est pour cela que Jacques a pu être dénaturé par pas mal de gens qui voient simplement un manuel pour comment vivre. Non, c'est plus que cela. C'est en fait les exhortations d'un pasteur au nom de Dieu pour vivre en tant que croyant dans un monde hostile. Comment est-ce que je vis ma foi dans un monde qui ne favorise pas la vie de la foi? Comment est-ce que je vis dans un monde où je suis étranger, où je suis seulement voyageur, et un monde qui hait les valeurs pour lesquelles je me tiens? Jacques n'est pas intéressé par les grandes déclarations qui ne peuvent être que des paroles seulement. Non, pour lui, ce qui compte, c'est la manière dont la vérité de Dieu me permet de vivre quand la situation est loin d'être idéal. Comme les gens à qui il écrit au premier siècle, des gens qui ont été déracinés, qui sont pour la plupart haïs par leurs congénères même, qui veulent leur mort, une situation qui est loin d'être idéale. Et Jacques commence par un domaine qui touche tout le monde, les différences sociales qu'entraîne la condition des uns et des autres. C'est pour cela qu'il s'adresse aux frères de condition humble, qu'il s'adresse aux riches. Et nous voulons regarder en premier lieu, en suivant le cadre de Jacques, le frère de condition humble. Et c'est intéressant de voir comment Jacques pèse ses mots. Et il y a plusieurs choses à noter pour commencer. Jacques n'est pas intéressé par la présentation d'un modèle économique. Il n'est pas intéressé non plus par une solution de communautarisme ou peut-être de communisme où les nantis doivent partager leur excédent avec les démunis. Il y a d'autres passages dans la parole qui adressent ces choses. Ici, Jacques n'est pas touché par cela. Ça n'est pas son problème, là. Et les expressions qu'il utilise sont très instructives. Ce qui est traduit dans notre version par « condition humble » peut se rendre littéralement par « celui qui a le nez dans la poussière ». D'emblée, nous voyons donc que Jacques ne parle pas de niveau de vie. effectivement, le niveau de vie peut entrer en cause. Là. Mais ça n'est pas la préoccupation majeure de Jacques. Il est plus concerné par l'attitude de cet homme, l'attitude de cette personne. Il est possible que d'autres autour de lui pensent qu'il s'en tire pas mal. Mais pour lui, il a la condition de quelqu'un qui a le nez dans la poussière. Et cela nous ramène à la situation de ses correspondants de Jacques. Les réalités de la vie étaient devenues des montagnes pour eux, comme nous l'avons dit. Ici, voici un homme qui a sa situation de possession limitée. Il est de condition humble. Mais cette situation, sa condition, lui est devenue intolérable. Il ne voit que cela. Il ne pense qu'à cela. Et il est tenté, en cela, d'envier les autres qu'il juge plus nantis que d'autres, que lui. Vous voyez ? Et en fait, vous voyez tout de suite que ses regards ne sont plus sur celui qui doit être le centre de sa vie. Rappelons-nous que c'est un frère. Non, c'est sur sa situation et il est en danger d'être transformé en victime et d'être envieux. Et toute la ribambelle des choses qui militent contre l'âme sont à la porte et guettent. Il se peut, mes amis, que sa situation soit difficile. Rappelons-nous que Jacques s'adresse à des gens qui traversent diverses épreuves. Et pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons aucune idée du sérieux des épreuves que ces gens traversaient. Mais Jacques n'est pas du tout concerné par le fait de l'épreuve, mais plutôt par ce que l'épreuve accomplit. Rappelons-nous, parce que l'épreuve vient de Dieu. Peut-être à travers des agents, mais ça vient finalement de Dieu, et ça vient de Dieu pour un but. Ce sont des choses qu'il nous faut garder jalousement. Que doit faire celui qui se trouve dans une condition humble, né dans la poussière? Il est clairement sous-entendu que cette condition a fini par occuper toute sa vision. C'est pourquoi Jacques lui tourne les regards vers ce que Dieu a fait. Et le premier indice est ce mot « frère ». Mon ami, quelle que soit ta difficulté, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été transporté d'une famille hautement dysfonctionnelle, la race humaine, dans le péché. Tu as été transporté de cela à une famille grandement bénie. Voilà que Jacques, le frère même, ou le demi-frère, on pourrait dire, du Seigneur Jésus-Christ, t'appelle frère. Et tu es son frère en Jésus-Christ. Et voilà que Jacques secoue cet homme. Il est en train de le prendre par le col et le secouer. Cesse d'être obnubilé par ta condition humble. Elle est peut-être très humble, effectivement, difficile. Mais, dit Jacques, tu es frère. Que le frère qui a le nez dans la poussière se glorifie de sa hauteur. Voilà ce que Jacques dit, en fait, littéralement. Et c'est pour cela qu'il veut le secouer. Jacques est très bon dans les paradoxes et il frappe l'attention. C'est continuellement, tout au long de sa lettre, il fait cela. Que celui qui a le nez dans la poussière, celui qui est vraiment au fond du trou, se glorifie de sa hauteur. Et vous voyez comme quoi il bouleverse la vision de cet homme. Il lui dit, non, tu n'es pas ce que tu crois être, tu es autre. Et c'est clair qu'il veut frapper l'esprit de cet homme. L'expression se glorifie, qu'il se glorifie de sa hauteur. Cette expression se glorifie peut se rendre plus exactement par qu'il se réjouisse avec fierté. On la retrouve plusieurs fois. Par exemple, Paul l'utilise dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, qu'il se réjouisse avec fierté. Et immédiatement, nous voyons que Jacques se situe dans le registre de l'alliance de grâce. c'est-à-dire de ce que Dieu fait dans l'avancement de son royaume. Si souvent, mes amis, on a tendance à penser que cette vie tourne autour de notre bien-être. Alors bien sûr, si je dis cela ainsi, vous allez dire « non, non, non ». Arrêtons-nous une seconde. Nous pensons que nous sommes bénis quand cela sert à notre bien-être. Dès qu'il y a quelque chose qui cause l'insécurité, « ah, c'est dangereux, ah, c'est mauvais, il faut que nous allions prier ». Non, ici nous sommes dans le registre de l'alliance de grâce, de ce que Dieu fait dans l'avancement de son royaume. C'est-à-dire qu'il vise la gloire du roi qui est son fils. Oui, mon frère, la vie est dure. Oui, ma sœur, la vie est intenable peut-être même. Et elle peut te pousser jusqu'à la limite. Mais ces conditions ne sont là que pour un temps. Ne l'oublie pas. En outre, elles proviennent du péché, non pas d'un péché particulier nécessairement, mais elles viennent de ce péché qui asservit, non pas seulement nous-mêmes, nature par nature, mais le monde en fait. Elles proviennent du péché et elles ne sont qu'un gage seulement de ce que tu devrais recevoir. Tu penses que ta condition est difficile, qu'elle est dure. Peut-être même tu es tenté de penser que tu ne la mérites pas. C'est vrai, tu mérites bien pire. Bien pire. Par nature, en raison du péché de ta nature, tu mérites la perdition totale. Non, ici, ça n'est qu'un gage. Mais lève les yeux, mon frère, lève les yeux, ma sœur, vers la réalité spirituelle. Qui sont ceux vers qui vient le Seigneur Jésus? Eh bien, nous le voyons, il le dit. En chapitre 4 de l'Évangile selon Luc, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit-il. » Pourquoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a quelqu'un qui est envoyé avec pour seul mandat d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont pauvres. Et tu te sens dans une condition humble, tu te sens dans l'épreuve, tu as le nez dans la poussière, eh bien la bonne nouvelle est envoyée à de telles personnes. Alors ne manque pas d'écouter. Comme Marie elle-même le chantait dans son Magnificat, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Vous vous rendez compte? Dieu ne regarde pas les grands de ce monde, il les utilise, il tourne leur cœur comme un courant d'eau, selon ce qu'il veut. Mais ses yeux sont sur la bassesse de sa servante. Ses yeux sont sur ceux qui se voient tels que lui les voit. Mon ami, est-ce que tu te vois comme Dieu te voit? Eh bien, aujourd'hui, dans le lieu où tu es, Dieu n'a pas les regards sur les grands de ce monde. Non, mais sur les petits, sur son peuple. Et Jésus commence à montrer le bonheur des élus, de ses élus en disant, dans les Béatitudes, « Heureux, bénis de Dieu, n'est-ce pas, vous qui êtes pauvres. » Là encore, nous sommes dans l'Évangile selon Luc. Est-ce que tu es pauvre? Alors, bien entendu, ce n'est pas que la pauvreté sert à gagner des points de salut avec Dieu. Non, non. Ce n'est pas la pauvreté qui gagne quelque chose envers Dieu, mais c'est plutôt que son esprit, l'esprit de Christ, produit une pauvreté d'esprit. Celui qui est frère est grandement élevé. Il fait partie de la famille même de Dieu, nous dit Paul. Regardez Romains chapitre 8. Où Paul nous montre ce que c'est. Regardez, Romains 8, verset 17. Commence à verset 17. « Or, si nous sommes enfants, à travers la grâce de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous imaginez que ce qui appartient à Christ est la même chose qui nous appartient. Nous sommes co-héritiers. Et puis Paul continue en mettant les choses en perspective, comme Jacques le fait. J'estime que les souffrances du temps présent, il parle de souffrances, il ne parle pas de fiction de l'imagination. Non, des souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le croyant n'est pas simplement dans les limites de ses pauvres vies. Non. Le frère est grandement élevé. Il fait partie de la famille même de Dieu. Il n'est plus sous le fardeau de la loi qui fait mourir. Mais écoutons ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit au chapitre 12. Hébreux 12. Quelques pages avant notre texte. Hébreux 12, regardez les versets, en commençant au verset 22. Vous ne vous êtes pas approché de la montagne de la loi, cette montagne qui accuse, cette montagne qui fait mourir. Non, verset 22, « Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Vous êtes en compagnie des anges, mes amis, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel parle de vengeance, parle de justice. Le sang de Christ parle de paix. Il est répandu sur le propitiatoire. Et c'est pour cela que Pierre renchérit quand il dit, en 1 Pierre chapitre 2, verset 9, regardez, vous, qui avez le nez dans la poussière peut-être, vous, frères, regardez, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et ce mot, en fait, acquis, c'est plutôt un peuple à part, à part. Vous avez une royauté spéciale, n'est-ce pas? Oui, le frère qui se sent comme s'il a le nez dans la poussière, eh bien, mes amis, qu'il se réjouisse avec fierté de sa hauteur. Vous voyez comment Jacques a tourné l'ordre des choses. Frère, est-ce que tu as conscience que tu es frère? Sœur, est-ce que tu as conscience que tu es sœur? Ta condition peut toujours être humble. Ta condition n'a pas changé. Du moins, dans tes yeux. Mais la direction du regard, l'encre de l'âme a changé. Le point de référence est différent maintenant. C'est ce que Dieu a fait et ce que Dieu fait. En fait, il est en train de bâtir son Église. Il prend ses pierres vivantes, à qui il a donné la vie, et il les façonne afin qu'elles soient exactement à la mesure de son Saint-Temple. Vous voyez comment les choses de la terre commencent à pâlir d'importance. Pourquoi ? Parce qu'on a retourné les regards vers Jésus, comme nous dit ce joli cantique. Oh, mes amis, il est bon de nous examiner nous-mêmes. Le frère de condition humble, qu'il se glorifie de son élévation. Et puis, Jacques continue, et c'est notre deuxième point. Le riche, que le riche, au contraire, se glorifie, c'est le même mot, de son humiliation. Jacques, bien entendu, dresse un contraste plutôt qu'un état des lieux. Il n'est pas en train de faire une description de des situations, des statuts sociaux des gens dans l'Église. Non. En fait, il dresse un contraste. Et il est très probable, en fait, qu'il n'y avait pas beaucoup de riches dans l'Église apostolique. D'ailleurs, Paul le dit, il y en avait, certes, Lydie, Philémon peut-être, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Mais de la même manière que Jacques n'est pas concerné par le degré de la pauvreté du pauvre, mais plutôt par sa perspective, son attitude, de même, il n'est pas très intéressé au premier chef par la richesse du riche, mais par son attitude, par sa perspective. Il est possible, mes amis, de se comporter en riche sans posséder grand-chose. Et je me rappelle, il y a quelques années, j'étais en Afrique et un jeune, au repas, on était en train de discuter et il se plaignait de la corruption des autorités. Bon, c'est un peu partout dans le monde, n'est-ce pas? Et en fait, il semblait dire, c'est parce qu'ils sont arrivés à la place de pouvoir qu'ils sont corrompus. Et je lui ai fait remarquer, mais si toi tu avais l'occasion d'être à leur place, que ferais-tu? Et avec un grand sourire, comme ils savent avoir, n'est-ce pas? Il m'a dit, mais la même chose, la même chose. Vous voyez, la richesse n'est pas dans le compte en banque. La richesse est dans l'attitude. La richesse est dans le cœur. Et si le cœur est mauvais, c'est une mauvaise richesse, n'est-ce pas? Il est possible, il est facile de se comporter en riche sans posséder grand-chose. On a bien dit que c'est la question qui se pose. Combien est-ce qu'il faut pour qu'un riche soit satisfait? Et la réponse est bien entendu toujours plus. Mais allons plus loin. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un pauvre soit satisfait? Eh bien, la réponse est la même. Parce que le cœur, c'est le même cœur, c'est le cœur humain. Et il est à remarquer ici que Jacques n'utilise pas le mot « frère ». Mais, comme il précise, au contraire, ou on pourrait dire d'autre part, on peut penser qu'il fait allusion à un croyant. Mais il ne le dit pas. Mais on va apprendre qu'il s'adresse à un croyant, le riche dans l'Église. Que doit faire le chrétien qui se regarde comme riche? Eh bien, il lui faut se réjouir avec fierté de sa bassesse. Et là encore, Jacques cherche à surprendre. N'est-ce pas surprenant? Bien sûr, Jacques veut mettre ses frères face à la réalité des choses. Oui, les richesses sont des choses réelles, on peut les toucher, mais il ne faut pas le nier. Mais ce sont des choses, ce ne sont que des choses matérielles, mes amis. Les richesses sont réelles, mais ce sont des choses. Réfléchis bien, on ne dispute pas le fait que tu as des biens et que cela facilite la vie. Oui, mais ces richesses ne t'ont jamais élevé. Tu penses peut-être, mais elles ne l'ont jamais fait. N'est-ce pas une réalité que, quelle que soit ta richesse, il t'en faut toujours plus? Et il y a toujours quelqu'un qui a plus que toi. Et cette richesse ne t'a jamais procuré ni sécurité, ni élévation, ni plaisir durable, ni paix. Donc, ça n'est pas là qu'il faut se réjouir. Ça n'est pas là qu'il faut placer sa fierté. Absolument pas. Comment es-tu, frère? Parce que nous parlons de frère ici. Eh bien, tu n'es pas frère grâce à ta richesse. Au contraire, pour devenir frère, tu as dû les déposer parce qu'on ne pose pas la porte étroite avec ses richesses. Tu as dû t'humilier sous la puissante main de Dieu, n'est-ce pas? Sinon, tu n'es pas frère. Et alors, il t'a grandement élevé. Il t'a adopté dans sa famille. Alors que même là, il fallait que tu achètes tes amis. Mais maintenant, tu es adopté dans sa famille. Il t'a donné une espérance qui ne peut pas se flétrir et que nulle richesse ne peut gagner. Tu es avec des gens de condition humble. Oui, dans l'Église, il y a même des esclaves. Mais tu es en communion avec celui qui est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, au-delà de tous. Et donc, à l'opposé, regarde la réalité des biens de ce monde. Regarde ce que c'est. C'est la fleur de l'herbe. Et en ce moment même, ici chez nous, nous avons cette fleur qui a, cette herbe qui a grandi, qui a pris presque un mètre. Mais d'ici une semaine, d'ici deux semaines, c'est du foin. Ça va être coupé, ça va sécher, ça va être serré, séché, et ça va servir de fourrage à des vaches. Voilà la beauté de la fleur de l'herbe. Et c'est la richesse du riche, c'est la richesse de ce monde. Ça devient du fourrage aux animaux. Alors que celui qui est riche pour Dieu, il est en communion avec les anges, comme on a vu. Il est en communion avec Dieu lui-même. Et il est en marche vers ce jour où il va arpenter des rues pavées d'or. Est-ce que tu peux imaginer cela ? Oh, bien entendu, cette histoire de rue pavée d'or, c'est une image, une pauvre image pour montrer la bénédiction, la félicité, la merveilleuse joie, richesse d'être avec Dieu réconcilié pour toujours. L'humiliation, mes amis, est la voie vers l'élévation. Comme ce fut le cas pour Jésus, lui qui était au-dessus de tous, qui s'est fait plus bas que tous. Il a été élevé au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Là, l'humiliation est la voie vers l'élévation. Oui, oui, mes amis, que le riche, que celui qui se pense riche, que celui qui pense que tout va bien, se réjouisse avec fierté du fait qu'il a été dépouillé de son intérêt dans ces choses afin de trouver les vraies richesses. Ainsi, oubliez la toute importance de ces richesses qui ne peuvent même pas satisfaire. Elles ne sont plus que des outils pour se préparer une place dans les tabernacles éternels, comme le dit Jésus. Et vous voyez ainsi, le riche oublie ses richesses, ce qui le différencie de l'autre frère qui est de condition humble et celui qui est pauvre. Celui qui est de condition humble, il oublie sa condition humble, il centre ses regards sur Dieu, sur ce que Dieu a fait, sur ce que Dieu fait. Et l'un comme l'autre sont en union dans ce corps qui est le corps de Christ, dans ce nouveau temple qui est fait pour la gloire de Dieu, un temple vivant. Non, ces choses ne sont plus là pour diviser, ces choses ne sont plus là pour alourdir, mais au contraire, le croyant, le frère, de condition humble ou riche, il est un esclave, il est un serviteur du Seigneur. Et il marche en nouveauté de vie, il marche comme une armée qui sort avec ses bannières au vent, prêt à tout conquérir. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la famille de Dieu. Toute la perspective a changé. Et c'est une joie. Et mes amis, quand nous sommes alourdis par les diverses épreuves qui nous atteignent, quelles qu'elles soient, mes épreuves peuvent vous sembler rien du tout. Vos épreuves ne me touchent pas peut-être, sauf que je vous aime. Mais, quelles qu'elles soient, le regard est fixé sur le Seigneur. Et puis Jacques continue au verset 12, il dit « Heureux l'homme », et c'est notre troisième point ici, « Heureux l'homme, béni celui ». Rassemblant tout ce qu'il vient de dire, Jacques revient à son thème central. Il y a des épreuves dans la vie, et il y en aura jusqu'au bout, mes amis. Mais il faut les voir comme des outils utilisés par Dieu pour accomplir son œuvre dans les siens, dans son peuple, dans ses élus, afin qu'ils soient parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là ton but? Est-ce que c'est là ta vision, mon ami? Le pauvre, comme le riche, doit regarder à ce que Dieu a fait pour lui, de sorte que l'un comme l'autre s'appelle frère de la famille de Dieu, héritier de Dieu. Tout ce que Dieu a lui appartient, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, de sorte qu'il soit appelé frère. Il doit regarder à ce que Dieu fait au travers de tout ce qu'il amène dans sa vie. Je dois regarder à ce que Dieu fait à travers de tout ce qu'il amène dans ma vie. Et pareil pour toi, mon ami. Tu es pauvre, tu es de condition humble et tu supportes patiemment cette épreuve et toutes les tentations qu'elle peut engendrer pour un cœur pécheur. Alors, ainsi, tu es heureux, tu es béni de Dieu. C'est ça la force du mot « heureux ». Ça n'est pas simplement un sentiment, c'est une réalité du cœur. Tu es riche, mais tu exerces la sagesse venue du Dieu donateur pour détourner les regards de ce foin des richesses et pour le porter sur ce que Dieu, qui a été assez puissant pour t'humilier et pour te donner la vraie vie, pour porter les regards sur lui. Lui est la vraie richesse, n'est-ce pas? Eh bien, toi qui es riche, si tu es ainsi, tu es heureux, béni de Dieu, béni de Dieu. L'un est béni de Dieu, l'autre est béni de Dieu. Comment est-ce que cela se peut? Notre monde ne connaît rien de cela, rien de cela. C'est une humanité nouvelle. C'est quelque chose qui est au-delà de l'imagination. Et donc, après avoir été éprouvé, car, mes amis, ne l'oublions pas, si nous sommes au Seigneur, il y a un après. Il y a un après. Eh bien, après avoir été éprouvé, tu recevras la couronne de vie qui est la promesse de Dieu. C'est ce que Jacques dit ici. Alors, ce n'est bien sûr pas que cette ténacité au travers de l'épreuve gagne quelque chose du salut. Il n'est pas question d'endurer, c'est-à-dire un peu comme, voilà, je suis loin de la maison et il commence à pleuvoir et je dois endurer parce que je ne peux pas faire autrement. Non, ce n'est pas cela. Celui qui est frère a déjà la vie éternelle. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, depuis le moment où tu crois. Il n'y a pas à avoir plus d'un certain côté. Il y a bien entendu aussi une dimension dans ce que Jacques dit qui concerne le dernier jour. Cette couronne de vie qui sera la plénitude de la vie éternelle vécue réellement dans la présence de Dieu directement, recouvert de l'incorruptibilité, pour l'éternité, sans la présence du péché. Oui, il y a une certaine dimension de cela. Le croyant, dès le moment où Dieu lui donne de croire, il a la vie éternelle, il a la couronne de vie. Et il aura la couronne de vie en plénitude, dans la félicité éternelle en présence de Dieu. Mais ici, pourtant, Jacques veut dire que celui qui conquiert l'épreuve avec la sagesse de Dieu, il reçoit l'affermissement de la vie spirituelle. Cet affermissement de cette vie spirituelle que Dieu lui a déjà donnée, eh bien, elle est affermie, elle est solidifiée, elle est fortifiée. Comme on pourrait dire, c'est pour couronner le tout. La vie que Dieu te donne, et voilà la couronne de vie. Ainsi le croyant passe de gloire en gloire, jusqu'au jour où il entre dans la présence même de son Sauveur, et il le voit face à face. L'auteur de la lettre aux Hébreux parle de cela, Regardons au verset 12, encore une fois, verset 11 et suivant. C'est chapitre 12, n'est-ce pas ? Verset 11. « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. » Vous voyez comment la Bible est réaliste. Ce n'est pas un chant de sirène, non. Il y a des épreuves, il y a un châtiment, ici c'est la discipline. Et c'est intéressant que le mot s'apparente au mot qui nous a donné le gymnase. C'est ce qui nous permet d'être exercés. Tout châtiment, toute épreuve n'est pas un sujet. C'est un sujet de tristesse et non de joie. C'est difficile. Ne nous voilons pas la face. Ce serait vivre dans l'irréalité. Non, non, mais regardez. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais, il produit plus tard persévérance. C'est ce que nous avons déjà vu. Il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Mes amis, vous subissez des épreuves dans cette vie. Et ce n'est pas plaisant. C'est même difficile. Ça vous pousse au bout de vous-même. Vous avez le nez dans la poussière, peut-être. Mais la vraie question est-ce que vous êtes ainsi exercé par ces épreuves, par cette gymnastique, par cette discipline que Dieu envoie? Est-ce que vous êtes exercé? Est-ce que vous apprenez à partir de cela? Telle est la question. Et c'est ce que Jacques veut vraiment viser ici. Pour lui, la pauvreté n'est qu'un outil, la condition humble. La richesse n'est qu'un outil, c'est qu'un moyen. Ce n'est pas vraiment la réalité. Et remarquons pour terminer comment Jacques décrit ceux à qui le Seigneur a promis cette couronne de vie. Il dit à ceux qu'il aime, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime, à ceux qu'il aime. Et là encore, il n'est pas question d'un amour qui mette Dieu en compte. Parce que j'aime Dieu, alors maintenant il a intérêt à me bénir, n'est-ce pas? Je l'aime, alors il doit me bénir. Non, 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 non. Ceci, ça n'est pas de l'amour. Ceci, c'est de l'achat. Non, c'est l'amour du monde. Mais ce n'est pas vrai amour. Non. Mais ceux que Dieu adopte, il leur donne son amour. Et son amour en eux fait qu'ils l'aiment, tout simplement, et qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de l'aimer. Ils ne peuvent pas faire autrement. Vous allez me dire, mais je ne l'aime pas autant que je devrais, ou je l'aime faiblement, je l'aime par moments seulement. Alors, mon ami, cela est probablement plus vrai que tu ne le penses. Mais lisez bien. Qu'y a-t-il après ce mot « aime » ici dans notre texte? Eh bien, il y a un point. Dieu ne qualifie pas. Il ne dit pas qu'il l'aime beaucoup. Non, qu'il aime. Et nous revenons une fois de plus à ce que Dieu fait. Nous l'aimons, nous dit Jean, parce qu'il nous a aimés le premier. Et récemment, dans notre église ici, on a vu que ça va plus loin que cela. Parce que, en fait, Jean ne dit pas tout à fait cela. Il dit, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous sommes capables d'aimer le frère, celui qui a plus que moi, ou celui qui ne peut rien m'apporter. Je l'aime. Pourquoi? Parce que Dieu m'a aimé le premier. Dieu le premier a aimé. Et donc, il a cassé mon carcan de péché, mon asservissement. Et maintenant, je peux aimer. Maintenant, je peux vivre dans l'Église. Je ne suis pas enfermé par mes conditions, que j'ai le nez dans la poussière ou que j'ai quelques possessions. ce n'est pas ce qui occupe mon regard, comme ça devrait le faire par nature, et comme ça le fait malheureusement si souvent, quand je mets en oubli mon statut devant Dieu, ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu fait en moi. Mes amis, écoutons Jacques et détournons les regards de ces pauvres choses qui nous alourdissent et suivons son conseil. Réjouissons-nous et comptons comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Ces choses qui préparent pour nous un poids de gloire que nulle balance sur cette terre ne peut peser. Il n'est pas venu à l'esprit de l'homme ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Ô mes amis, vous qui le connaissez, vous êtes bénis au-delà de toute imagination. Et que ces quelques réflexions que nous avons pu avoir ce matin vous aident à exulter de joie, à danser dans votre cœur et à louer le Seigneur, à le remercier, à être vraiment bizarre dans ce monde, à vous réjouir des choses qui en fait ne réjouissent pas le monde. Et si d'aventure vous ne connaissez pas ce Dieu et que la vie vous pèse, sachez que vous pouvez espérer dans des jours meilleurs, mais ils ne viendront jamais. Non, les jours meilleurs sont une illusion. En fait, il semble même que les jours deviennent de pire en pire. Quel autre y a-t-il au ciel? Et qui est sur la terre, semblable à lui? Oh, mes amis, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Une fois encore, voici l'exhortation de Jacques. Détournez-vous de ce monde. Entendez sa voix. Tournez-vous vers celui qui a déjà fourni un remède au péché. Il a donné son Fils afin que celui qui croit ne périsse pas, mais qu'il ait aujourd'hui la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous et qu'il bénisse son peuple avec sa parole, par son esprit, et qu'il nous donne de nous réjouir en lui. Amen.